Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite.
Alex, moi j'ai faim. Ouais. Je vais être affamé quand t'as couru en plus, ce n'est pas mon cas.
Tu ne sais pas du lyophilisé, donc.
J'espère que t'aimes les empanadas. Hein. J'ai pris ça pour faire couleur latine, mais.
On va goûter. Tout dépend de ça.
J'ai vraiment pris du choix pour qu'il y ait végétarien ou pas végétarien. Donc ça, regarde, je sais pas si c'est les dessins qui représentent les... qui fait quoi. Ok, impossible. Un petit coup au micro-ondes, mais bon, je pense qu'on aura du mal à voir les... Il n'y a pas de lettres qui soient écrites dessus.
Non, mais ça, de toute façon, je peux tout manger. Le seul truc, c'est juste qu'il n'y a pas des trucs où je suis allergique.
C'est quoi, ce que t'aimes pas?
C'est pas que j'aime pas, c'est...
Enfin, que tu te laves pas.
C'est on termine aux urgences. C'est le sésame.
Ah.
Je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
C'est pas marqué, là, en tout cas, ouais. Oui, ça pourrait gâcher un peu la fin de l'épisode.
Non, mais ça...
Ou pas d'ailleurs, ou sublimer. Survivre au-delà STSP et pas survivre à une graine de sésame dans un panier, ce serait quand même moche.
Et au pire, je me sentirais pas bien, c'est pas grave.
Il faut qu'on fasse quoi là si on sent que tu pars?
Aucun risque. Ok. Aucun risque. T'appelles Charlotte, elle débarquera avec une piqûre d'insuline.
Ça va être réglé.
J'ai regardé 10,5 km de chez moi. En ce moment, elle court vite. Donc, ça... Je pourrais survivre.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast.
Ok, ça c'est bon, les couverts. On panache et puis on met au truc.
Ça vaut tout ça?
Ça va, on va foutre un micro-ondes si ça va.
Ah oui, bien sûr.
Je viens de me laver les mains, donc c'est cool. Hop.
J'ai créé un système immunitaire avec ma vie à Paris en ne lavant pas les mains.
Ah ouais?
Non, je peux.
Ok. Ça fait ses preuves. Alors, qu'est-ce qu'on met une minute?
On en met.
Vas-y, moi j'ai mis 3, mais vas-y.
Je vais dire en mettant, mais. Ça se fait. Moi, si tu veux.
Vas-y, dis-moi. Prends-moi. Hop. Est-ce qu'on a une 15?
Alors, moi je ne connais pas, je n'ai pas de fond micro-ondes.
Ouais? Comment on peut vivre?
Tu sais, je cuisine que des produits frais et locaux.
J'imagine,
évidemment.
Ouais, tu fais livrer tes paniers au repas toutes les semaines.
Alors, je me fais rien, ouais. Mais en vrai, je sais pas, je fais tout minute. Pour moi, perdre du temps pour me faire manger complexe.
Perdre du temps, t'as déjà tout dit là en disant ça?
Prendre
du temps? Perdre du temps?
Non, perdre du temps. Okay. J'adore manger, etc. Mais au quotidien, je n'ai pas le temps de perdre une demi-heure, une heure pour faire et manger. Quoi. Donc,
là, tu te serais avec quoi là si t'es rentré chez toi ce soir?
Là, tu vois.
J'estime
retour une heure et demie, max 2 heures. J'aurais pas mangé, j'aurais mangé plus demain matin.
Ouais.
Plus demain matin, c'est-à-dire 2 paquets de gâteaux à la place d'un.
Qui sont quoi?
En ce moment, j'ai une petite période fingers, tu vois. Petite fingers.
Chocolat blanc.
Vraiment le pire du pire. Pire des
races.
Et les petites tartelettes à la fraise à 70 centimes d'euros. Parce que j'ai l'impression
en plus de. Distributeur, blanc,
ouais, avec un exactement,
petit bleu un peu crâné, là. Ouais, voilà. Ok, très bien.
Donc ça c'est tout du moment. Ouais. C'est tout du moment. Je me serais peut-être fait des pâtes.
En plus, là, par rapport à ce qu'on disait dans Popote, c'est bien là.
Vous êtes affreux. Hein. Moi, je me suis dit, putain, si je devais le calculer pour moi. Non, je suis très content d'être arrivé à ce niveau-là sans avoir eu besoin de. Ouais, t'inquiète. Sans avoir eu besoin
de compter
ce système de Canonier ou Lucid Air, moi je sais pas, j'ai toujours fait au pif. Généralement j'en ai trop pris. Et je me suis toujours trop trimballé avec moi.
Ouais.
Mais pour l'instant, en tout cas j'en suis pas marre. Mais ouais, voir Baptiste, voir à quel point en fait il avait déjà préajusté ces trucs-là, je me suis dit ouais en fait. Je sais qu'on vit pas dans le même monde, hein. On vit à 1h30 d'écart à l'UTMB, c'est pas le même monde. Mmh. Mais ah ouais. Je suis pas prêt.
C'est voir à quel point sa stratégie de nutrition elle est calquée sur la stratégie de course, quoi. C'est dingue.
C'est fou. En fait, je me demande à quel point c'est un risque ces trucs-là, parce que si elle est inattendue, puisqu'il y a tout le temps en ultra, comment tu le gères? Moi, j'ai passé en fait mes 5 dernières années à passer que mon temps à gérer des inattendus. Donc maintenant, ça arrive, je prends, je suis habitué.
T'as jamais été trop tard, toi, dans l'hypo, dans un truc comme ça?
Si. Ouais. Moi, mon kiff au quotidien, c'est que je prends rien quand je cours à Paris ou quoi. Donc, de temps en temps, je me fais des 3, 4, 5 heures. Sans eau, sans bouffe, sans rien. Et mon truc préféré, c'est de partir en hypo et de me rester dedans. Et de temps en temps, je vais chercher cette hypo. Ça va être ma difficulté de la sortie, ça va pas être de monter plus vite, d'aller plus loin ou quoi que ce soit. C'est de bouffer une hypo au bout de 3 ou 4 heures.
J'ai eu une hypo en interview l'autre jour, pas moi, mais un invité d'un camp Périlla. Deux.
Ouais, mais ça, c'est les sportifs, ça.
Ouais. Il avait rien bouffé, il était parti faire une sortie de 15 km et il m'a fait deux fois le truc de. Oh là. Il était dans un hôtel, il prenait des gobelets et des trucs de sucre là, tu sais.
Ouais, mais
pauvre, je sais pas. Il était mal.
Ouais, je sais pas, je pense que c'était parce que quand j'étais gamin, tous mes potes et tout, ils avaient tout le temps des bonbons, des trucs, des machins, moi j'avais jamais rien.
Ouais.
Parce que ma mère, je pense, me préservait du sucre.
Ouais.
Et donc, je me suis habitué à vivre et à avoir mon corps qui sait vivre sans ça.
Ok.
On va se mettre à table.
Ouais. Très bien, on va se replacer. Tu as ce qu'il faut à boire?
Ça devrait le faire pour l'instant. Oui.
Ok. Frigo est pas loin. Voilà. Ça va?
Ouais.
C'est bon.
C'est une surprise. Alors, tu sais, c'est les empanadas surprise.
Ouais, s'il y a un truc qui va pas, tu me dis.
Non, je pense que je vais sur. C'est bon, c'est chaud.
Ouais.
Pas mal. C'est très bon.
C'est fin, ça se mange enfin.
Ouais, non.
Ouais. Allez, on y retourne.
Ouais, let's go.
Alex, ils sont comment ces empanadas?
Ils sont déjà chauds, donc ça franchement c'est quelque chose qui est important et qui était aussi important pendant le TSP. C'était avoir de la bouffe chaude, c'est tellement réconfortant. Mmh. Et sur les ultras, j'en ai assez peu. Très peu souvent. Les rares moments où j'en ai, c'est quand j'ai Cécile qui me fait l'assistance et qui arrive à gérer pour me faire du riz à la bonne température ou quoi. Là, j'ai pas besoin de réconfort, donc tu aurais pu me servir froid. Hein, en vrai. Tu me servais froid, il n'y avait pas de problème.
On est bien.
Un bon moment.
Alex, il faut que ça continue à l'être.
Ouais.
Avec la deuxième partie de cet épisode, donc consacrée à ton TSP.
TSP Atacama, yeah.
Voilà. Qui n'est pas le Tony. Super Parker, non, TSP, ça fait Tipeee, ça pense un peu.
Moi, ça me fait penser à Tony Hawk Skater Pro, un jeu que j'ai beaucoup rodé. Ça me faisait penser à ça en termes de nom, et le fait qu'on soit parti d'un skatepark, ça me faisait beaucoup penser à ça.
Il a dû être champion de skate, lui, entre 1972 et 2021, un truc comme ça.
Ouais, à peu près. Il a quand même maintenu le truc. Il continue. Je suis sur Insta, il fait encore 2-3 trucs, mais bon, lui, il a des rampes géantes chez lui, donc ça aide. Mais il est plutôt jeune, hein, ça y est.
Moi, j'ai que un bowling et un tennis. J'ai pas encore de rampe chez moi dans mon appart.
Écoute, ce sera le GLB. Le GLB, on dirait le nom d'une drogue. Hein, par
ouais,
contre,
aussi, ouais.
Le Guillaume Lalou Bowling.
Le GL 20, un sentier de randonnée aussi, sinon. Tellement
ah oui, ça marche.
Chalons, ouais.
Ça marche. Mmh. Ça marche. Donc, non, ouais, c'est parti sur le TSP. Je sais pas si, tu vois, là, je l'ai fait avec la voix américaine, mais je sais pas si t'as vu. Ils ont un espèce de. Comment on dit? Un shower. Tu vois, sur les planche à Paris quand il y a des mecs qui viennent tourner pour préparer des spectacles, etc. Il y a toujours un MC. Et donc là, le TSP, il n'y a pas grand chose, mais en termes de communication, ils balancent pas mal sur leur Insta. Ils font beaucoup de directs pendant la course et ils ont un MC qui est un pote de Nils qui est sincèrement incroyable à voir. Je sais pas si tu pourras piquer des moments audio juste pour avoir sa voix.
Comment il s'appelle?
Il a bien buzzé. Jerick. j'ai plus son nom, mais c'est It's Me Jerry, sur, je crois que c'est sur Insta, si je me plante pas. Et on peut le retrouver dans les vidéos de TSP, de toute façon, quand on regarde leurs vidéos à eux, dans leur réel. Et en fait, c'est un espèce de ludo-collé, mais qui aurait grandi à Boston et qui connaîtrait pas grand-chose au final à la course à pied, mais qui garde une bonhomie et une voix, mais avec une culture ultra rap gangsta américaine, proche quand même un petit peu du milieu de la photo et de quelque chose où il y a de l'esthète. Donc très particulier d'avoir un mec, un MC déjà, c'est très bizarre d'avoir un MC sur une course, toi, c'était pas un speaker, c'était un MC qu'on avait. Quoi.
À l'UTMB, c'est un LC.
Oui. Oui, très bon, très bon, très très bon. Mais tu vois, ils sont là pour présenter l'événement, là où le MC, il est là pour presque le présenter, mais pour l'extérieur, d'une certaine manière. Il était là plus comme un présentateur à la Nelson Montfort, vous voyez. Voilà, il était plus pour présenter qu'est-ce que c'était que le TSP vers l'extérieur. Et c'est, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, ah si, c'est pour le TSP, mais rien que pour, si t'arrives à choper un moment audio où il le dit ou quoi, ça vaut le coup, quoi.
Bah si on le trouve, on le mettra là. Là.
Now you know, my name is Jarek and I am the host of the Speed Project. So this moment is extra, extra special for the first time.
Spectaculaire. Alex, c'est parti pour Speed ? Non, t'as pas
yes,
pioché.
J'ai pas pioché.
Donc, alors, ça divulgage beaucoup
trop. Soit c'est le 6, soit c'est le 9. Speed ! Incroyable !
Ouais, tu tombes de ta chaise. Réalisé par le néerlandais Jan de Bont, bien connu. Sa famille majoritairement. Le film date de 1994, c'est un film américain avec Keanu Reeves et qui a révélé Sandra Bullock au grand public. Le pitch, c'est un jeune policier aux prises avec un maître chanteur artificiel à la retraite qui menace de faire sauter un autobus dans lequel il a placé une bombe qui peut faire exploser à distance. Pour sauver les passagers du bus, il doit maintenir la vitesse à plus de 50 miles par heure, donc vitesse constante minimale. Un défi de taille pour Jack Traven, interprété par Keanu Reeves, on en a parlé. Je crois que tu l'as pas vu ce film.
J'ai pas vu.
Bande annonce.
Chaud.
Je sais pas si ça a bien vieilli, mais moi j'ai
je pense
bon souvenir.
Que ça a très mal vieilli.
Il peut frapper n'importe où. N'importe quand.
Si notre invité surprise veut bien se montrer.
Pourquoi ne me prennent-ils pas au sérieux? Ils croient peut-être que je fais ça pour me marrer.
Pour l'inspecteur Jack Traven de la police de Los Angeles.
Ah, et pourquoi j'ai choisi ce métier?
Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, t'auras une retraite minable et une saloperie de montre en or.
Génial.
J'ai l'impression qu'il y a de la vanne à la Bruce Willis. Piège de cristal et autres.
On a eu drôlement chaud.
Un téléphone qu'on n'envoie plus avec une antenne de 50 cm.
Je laisse son défi ultime.
Question-réponse, champion. Une bombe à bord d'un bus. S'il atteint la
très sympathique,
de
il a une excellente réputation. Il paraît que c'est un mec.
Ouais, bah,
incroyable.
Enfin, tout ce qu'on voit sur les réseaux sur lui.
Qu'est-ce que tu fais?
Maintenant, tout le monde m'envoie les extraits de lui dans l'escalier à Montmartre, parce qu'il les a descendus dans John Wick 4.
Ok.
Il y a une scène dedans, ou une scène armée, qui est assez ouf d'ailleurs. Il descend, il monte moins vite que moi.
Mais... D'après vous,
je reste ou je sors?
Vous sortez!
Ben voilà, c'est beaucoup mieux.
Accrochez-vous!
Il y a de la castagne, hein. Je sais pas combien de voitures ils ont pillé depuis le début de la bande-annonce.
Le budget américain, c'est de la tôle.
Ça vient volte, hein. Mais c'est bien, il n'y a pas trop d'effets spéciaux là, c'est quand même ça, son charme quand même ça. Hein. C'est un peu désuet, mais.
Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock.
Question-réponse. Il y a un flic très en colère qui s'apprête à te trouer la peau, qu'est-ce que tu fais? Réponds, qu'est-ce que tu fais?
On a envie de savoir ce qu'il fait.
Speed, passer à la vitesse maximum.
Il y a de la conception rédaction derrière. Passer à la vitesse maximum. Alex, à quelle fréquence tu passais la vitesse maximum là, sur la course? C'était quoi le ratio marche-course? Il a beaucoup évolué au fil des jours?
Bah oui, parce qu'il est passé de 0% à 100%.
À partir de quand t'as complètement basculé?
Fin du jour 3, fin du jour 3, ça a basculé. Jour 4 et 5, c'est globalement 100% de la marche. Après, c'était de la marche qui était entre... J'étais à plus de 6 km/h parce que je voulais jamais que ma montre affiche 10 minutes au kilomètre. Donc j'étais à plus de 6 km/h, j'étais entre 6 et 7,5, je pense. Sur le papier, quand t'es dans Paris, tout le monde marche vite. Donc marcher à 6 km/h, tu parais un peu chelou, mais ça passe dans Paris. Pendant 10 minutes, c'est déjà long, 10 minutes à 6 km/h. Pendant 15 heures, c'est infernal et c'est douloureux. Moi, je suis comme les avions. C'est-à-dire qu'un avion, il coûte moins cher en termes de maintenance quand il est en vol, VS quand il est sur le tarmac. Moi, je suis fait pour courir. J'ai souvent plus mal quand je marche que quand je cours. Là, marcher pendant 2 jours à cette vitesse-là a été une nouvelle expérience de douleur que je n'avais pas vécue depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai découvert des muscles, les muscles de la marche. Je pensais que mes jambes étaient prêtes à tout, qu'elles avaient déjà tout vécu en termes de développement musculaire. Je savais que, ok, d'accord, quand je fais du vélo, au bout de 3-4 jours, et que je fais beaucoup, beaucoup de vélo, ça me travaille 2-3 muscles différents, mais globalement, ça va, il n'y a pas de problème. La marche, c'est insupportable. Là, en fait, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est premier jour 140 bornes, deuxième jour 100 bornes, troisième jour 80 bornes, mais ces 3 jours-là, je courais encore, mais à partir du troisième jour, mes releveurs étaient flingués, donc c'est ce qui permet à tes pieds de plier, grosso modo. Donc mes pieds se pliaient plus, donc j'attaquais que talons et je ne pouvais plus. J'attaquais que talons. Oh là là, on dirait du Nekfeu quoi. Je vais pas me lancer parce que je rappe tellement mal, mais j'attaquais talons. C'est marrant que Ludo Pommeret, on lui a jamais fait faire un truc un peu chelou comme ça. J'attaquais talons à mort et je marchais, et en fait marcher vite en attaquant talons, c'est comme marcher vite avec des chaussures de ski. Donc c'était ça pendant 15 heures par jour. Et le défaut, c'est que donc l'attaque talon et le fait que ton pied ne s'adapte pas très bien au sol et qu'il ne rebondit pas, ça me tirait à mort sur le muscle qui est devant le tibia, qui va du releveur jusqu'au genou. Et là c'est parti en les 4 saisons niveau douleur. Une sensation d'avoir, ouais, une je sais pas comment ça s'appelle sur l'archer, ce bout de truc qui permet justement sur le violon de faire du bruit. Mais ce truc-là était tendu de la même manière, et j'avais une sensation de crissement. C'est vraiment ça, c'est pas une sensation de courbature ou quoi, c'est une sensation de crissement dans les muscles, comme si on mettait des coups et comme si j'avais des bleus et des hématomes, mais à chaque seconde, qui étaient en train de faire mal à l'intérieur véritablement de la jambe, et que ça pousse le tibia vers l'extérieur. Donc bah voilà, super agréable comme tu l'imagines. Mais
à un moment, tu pouvais courir pour te soulager, même si c'était douloureux.
J'arrivais pas à courir. En fait, je ne pouvais plus, mes releveurs ne me permettaient plus de plier mes pieds, et donc je ne pouvais plus me propulser telle une petite biche. Faut imaginer que, comme quand Gad Elmaleh faisait son sketch du blond qui marche avec les chaussures de ski, bah, j'en étais sincèrement la même chose. Après, tu t'adaptes, et au fur et à mesure, tu n'es pas élégant, mais au moins ça reste efficace. Et là, je sais pas si tu le remarques, mais je suis en fait très courbé sur mes épaules, etc. Je l'étais un petit peu avant, mais là, 5 jours de marche complètement courbé, en fait, recroquevillé. Je ne sais pas pour quelle raison ça a commencé à me recroqueviller, mais je terminais, en fait, j'étais en mode, ça m'a rappelé mon arrière-grand-père, qui était complètement plié en deux à 94 ans. J'ai eu la sensation d'être mon arrière-grand-père à certains moments sur la course.
Surtout bête, pas de bâton.
Je les ai utilisés dans les descentes, tellement j'avais mal, justement. Les descentes, c'était les rares moments où, en plus de me faire mal au tibia, ça a commencé à me faire mal aux cuisses. D'habitude, j'ai jamais mal aux cuisses, ça n'arrive plus depuis bien longtemps. Là, j'ai sorti les bâtons, ne serait-ce que pour sortir un tout petit peu de poids et qu'il n'y en ait pas trop, vu que là, mon corps se retrouvait un peu plus en avant, qu'il n'y en ait pas trop sur mes cuisses. Enfin, j'ai sorti les bâtons à ce moment-là. Sinon, le reste du temps, pas du tout. Je trouvais que ça me faisait perdre du rythme et je préfère avoir mal que de perdre du temps. Et c'est là où ça revient à speed. J'avais ce truc de, en vitesse instantanée et en vitesse au kilomètre, je ne voulais jamais, quand je marchais en tout cas, je ne voulais jamais voir 10 minutes apparaître. Il fallait que ça soit toujours au-dessous de 10 minutes au kilomètre. Et quand, par mégarde, je dépassais 10 minutes du kilomètre de 20 secondes, 30 secondes, ou que un ravitaillement, je ralentissais un tout petit peu mon pas parce que je ne m'arrêtais même plus pour me ravitailler. C'est Charlotte qui anticipait, venait vers moi en courant, ou potentiellement venait vers moi dans le désert, m'attrapait, me donnait au fur et à mesure, à la vitesse à laquelle j'avançais, c'est-à-dire plus de 6 km heure, elle me donnait les choses à manger et à boire que je mettais dans les différentes poches, et elle devait faire ça en même temps qu'aller à 6 km heure, et c'est... Je conseille aux gens de le tenter, c'est assez particulier comme exercice. T'as l'impression d'être dans un jeu sur TF1 au Big Deal où tu dois faire des services en même temps que t'avances sur un truc qui roule au-dessous de toi. Tu vois cet inconfort qu'ils ont, ou dans Interville, il y avait un peu des trucs comme ça. Bah, c'est un peu la même chose que Charlotte elle a vécu, je pense, vis-à-vis de moi. Et oui, quand je repérais que je perdais ces 20 ou 30 secondes de trop, j'essayais de les rattraper après, donc je me forçais, et là, tu fais siffler les violons qui sont à l'intérieur de tes tibias, et c'en est parti à des niveaux de douleur... Pompidop,
des larmes, comme jamais.
Et des larmes, ouais, je chiale de temps en temps en course, mais c'est de plus en plus rare. Mais généralement, quand je chiale, c'est les 3 km de l'arrivée parce que je vois le stade de la Redoute, que je sais que je vais faire top 10 à la Diag. Voilà, ça, c'est des pleurs de joie et de waouh, c'est enfin arrivé. Là, c'était des pleurs de douleur et j'ai des seuils de résistance à la douleur qui est élevé. Et là, c'était je ne peux plus, j'ai mal. C'est je sais que je ne m'arrêterai pas, sinon je vais exploser. Enfin, si je m'arrête, ce n'est même pas une option. Le si n'existe pas. Il n'y a que le camp qui existe et le camp, il existe que quand je serai arrivé à San Pedro de Atacama. Avant, il n'y a pas d'arrêt. Si, il y a les arrêts de nocturne. Mais le reste, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Donc, je vais avoir cette souffrance tout le temps. Et savoir que tu t'interdis toi-même de compenser cette souffrance, c'est presque encore pire psychologiquement. Tu te dis parce que putain, mais je suis en train de me faire du mal et je m'interdis de me faire du bien. Et t'es enfermé là-dedans et tu sais que t'es tellement fort que tu vas vraiment te l'interdire. Donc, que tu vas à aucun moment compenser. Et donc ça, c'est encore pire de savoir que t'es en train de lutter contre toi-même et que tu gagneras pas contre toi-même. Et c'est sincèrement atroce. Donc, je sais pas si Speed, ils sont allés aussi loin dans le procédé psychologique qui amène à ne pas vouloir s'arrêter. Si, bah, c'est la peur de mourir pour eux, ce qui doit être encore pire. Mais ça serait un concept de course à lancer, hein. Je me demande si ça existe pas, ça, d'ailleurs. Avec une vitesse minimale à la respecter. Si, ça existe un peu avec le truc...
Le truc avec les mecs qui te rattrapent, là, par l'arrière.
Avec les mecs qui sont rattrapés par la bagnole. Mmh. Un peu même concept, ouais. Mais je le ferais plus en mode démon. Si tu as pas un certain niveau de vitesse, tu peux pas avoir d'alimentation ou de flotte. Peut-être qu'il y a un concept à faire là-dessus.
Pour faire écho à ce que tu vas nous raconter à la fin de l'épisode, je pense qu'il y a cette course réveillée en toi des velléités d'organiser des choses.
Exactement. Exactement, ça pourrait... Ouais, on peut y penser. Je peux rajouter cette difficulté-là. Je peux rajouter cette difficulté-là, ça serait pas idiot.
Alex, une question qui pique sur Speed.
Yes.
Comment les producteurs de ce film-là, de la 20th Century Fox, se sont rendus compte lors d'une projection test que le film avait un potentiel et qu'il avait captivé visiblement les gens qui étaient présents dans la salle ce jour-là? Il y a un truc qui les a fait tiquer en observant les gens dans la salle.
Ils ont pas mangé de popcorn?
Non, ça pourrait. En fait, ils se sont rendus compte que les gens qui allaient aux toilettes... Il y allait en reculant parce qu'il voulait continuer à regarder l'écran alors qu'il se dirigeait vers les toilettes. Ah, et là, ils se sont dit, on tient peut-être une petite pépite.
C'est très bon signe. Et raconter ça, c'est comment bien vendre ton film, en fait. C'est plutôt que de mettre les exceptionnels sur les affiches, tu mets cette anecdote, ouais, tu dis les gens pour aller faire pipi, y aller en reculant.
Je pense que le film est vendu. En marketing à l'époque, là aujourd'hui, personne n'hésiterait à faire ça, je pense, sur l'affiche. Combien de bus, donc, utilisés sur tout le film?
Rien que sur la bande-annonce, il y en a 10 qui ont dû y passer. Donc,
12.
Ouais.
Ouais, 12. Un qui a servi uniquement à la scène où Keanu Reeves passe en dessous. Voilà, j'ai pas vu le film depuis un petit moment, mais
il y a un petit budget bus
cette scène. Petit budget bus, raisonnable.
Hein. Ouais, ouais.
Globalement, j'ai pas trop dépensé depuis le début là, de l'épisode. Alex, 7e film.
Yes, let's go. 7, un chiffre que j'aime bien. Film français, monsieur.
C'est le premier.
Je crois que oui. Je veux pas dire de bêtises. Oui.
Quota, là. Ouais. Je pense le premier.
Problemos. Pas le plus connu. Pas le plus connu, je pense, mais...
Il est pas mal drôle.
Mais ouais, très, très drôle, quoi. Et surtout, je crois qu'il était sorti avant la Covid.
Visionnaire.
Et assez visionnaire de tout ça.
Donc derrière ça, on va parler plutôt de la solitude, le moment où tu te reconnectes aussi un peu au réel, tous ces moments-là, après avoir été dans l'isolement pendant autant de temps. Le synopsis du film, c'est Jeanne et Victor, qui sont des jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone. C'est drôle, ça me fait marrer juste en lisant ça. C'est quand même très drôle ce film.
Le speech est très drôle.
C'est dû par une communauté qui prône le vivre autrement, où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies. Jeanne et Victor acceptent l'invitation qu'il leur a faite de rester quelques jours. Lorsqu'un beau matin, la barrière de CRS qui leur fait face a disparu, la communauté pense l'avoir emportée sur un monde moderne. Mais non, le plaisir est de courte durée, c'est ce que tu évoquais, Alex. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible...
pandémie.
Voilà, c'est pas par un pandémie, mais par une pandémie. Ce qui fait du groupe, les derniers survivants du monde, va-t-il se falloir trouver de nouveaux ennemis pour survivre? Telle est la question. Voilà, donc c'est Eric Judor, Eric Aramzi, qui a réalisé ce film. Et dans ce film, il y a Blanche Gardin aussi. Je pense un de ses premiers rôles, peut-être... Sur des longs métrages, qui joue le rôle de Gaïa. Voilà, très joli surnom aussi, qui lui va comme un gant. Alex, on va se regarder la bande-annonce.
Je suis chaud.
Moment de plaisir en perspective.
Nosotros, la tierra se defiende.
Tu veux me traduire en espagnol ou pas?
Aucune idée de ce qu'il a dit.
Jeanne!
Hey, Jean-Paul!
Je vois que vous avez des appareils électroniques. Il va falloir les laisser ici, les amis.
Allez, ma chérie, t'en as pas besoin.
Non, Marco,
tu lâches, donnes ça. Non, tu lâches ça.
J'adore.
Allez, viens faire un bisou.
En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois.
Il s'appelle comment, Wuchu?
L'enfant.
Non, mais le prénom.
Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non.
Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement.
J'ai jamais été vacciné de ma vie.
J'ai jamais rien eu.
Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, bon, zone de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein.
Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. Oh.
T'as essayé l'hibiscus en cataplasme? Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème.
Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez.
Oh putain, d'accord.
Problemos.
Il est magique, monsieur Fraise.
Putain, le monde de gens morts.
Quoi?
Tout un tas de gens morts sur la route.
Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Il n'y a même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Pandémie.
Quoi?
C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait.
Une pandémie, c'est
elle
une pandémie.
Débile, elle. Elle est débile.
On reste calme. Garçon sans froid.
C'est la fin du monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus forte que l'épidémie.
La dernière chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière.
En fait, elle moi je ris à toutes les vannes de la réalité.
C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu sexy. Ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de l'aventure.
Genre, je couche, je gagne.
Couche, gagne. Ouais, c'est un jeu.
C'est un jeu.
On s'amuse.
Problemos.
Problemos, très bien. Alex, on a parlé de ta solitude, en tout cas de cet état-là. Toi, quelles infos t'avais sur les autres coureurs pendant la course? Est-ce que t'avais une idée de ce qui se passait en dehors de vous, à part les moments où vous êtes croisés, dont on parlera un peu après? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéressais ou sur lequel tu pouvais avoir accès à des infos, ou t'étais complètement en autarcie, détaché de tout ce que pouvaient vivre les autres coureurs?
Moi, mon lien avec l'extérieur, c'était Charlotte. Et Charlotte, son lien avec l'extérieur, c'était parfois un peu de réseau. Et le parfois un peu de réseau, il y en avait vraiment en fait relativement très très peu. Donc, on avait quasiment zéro info en fait sur ce qui se passait devant, derrière. On a eu l'info au 4e jour que Rob avait terminé. On ne savait pas s'il était devant ou derrière nous. Et non, en fait, tu vois, c'est comme ce truc où... moi, quand j'étais plus jeune, je partais en vacances avec mes parents. Ça m'est arrivé de faire une semaine de bateau où tu n'as pas de portable, tu n'as rien. Et en fait, c'est en rentrant, en arrivant à Orly, l'itinérance n'existait pas à l'époque, donc tu l'allumais même pas. C'était en Turquie. Tu l'allumais même pas en Turquie, tu l'allumais à Orly. À Orly, tu arrivais et tu te rendais compte que Barry White était mort. Et j'ai ce souvenir de faire attends, ça fait 4 jours qu'il est mort. Genre, j'ai loupé la mort de Barry White. Et d'avoir été complètement en fait déconnecté de l'information, de l'actualité, etc. Voilà, il y a plein d'endroits ou plein de moments de la vie dans lesquels ça nous arrive. Mais alors là, t'es bien, bien déconnecté, quoi. Parce que effectivement, il peut y avoir une révolution, la 6e République en France. Tu ne serais vraiment pas au courant. Et je pense que tu mettrais un petit moment à être au courant de ça. Donc tu sens cette déconnexion du fait de l'information n'arrive pas à toi. Elle ne peut pas arriver à toi. Donc ça, il y a cette solitude que j'avais pas anticipée et que au final je prends pleine face et que j'accepte. C'est genre, ok, on peut pas récupérer d'infos. Bon, ben on va vivre sans ça, on va s'occuper. J'ai pas de jouet pour Noël, c'est pas grave. J'ai un bouchon et une petite ficelle, nickel. Ça va devenir mon meilleur jeu. C'était un peu ça. En fait, tu te suffis de ce que tu as puisque tu ne peux pas avoir autre chose. Donc il y a ce truc là. Et ce qui se passe, c'est surtout par rapport à Problemos. Il y a ce côté de cette solitude, pas savoir ce qui se passe autour. Et donc, moi, je sais pas si les mecs sont devant ou derrière moi. Ce que je me doute, c'est qu'ils sont derrière moi après le premier jour, parce que je sais que je suis parti tout seul devant, que j'ai passé un peu de temps avec Max, le chilien, mais que vers le kilomètre 50-70, à force de se croiser, lui s'est arrêté et il m'a pas rattrapé, malgré qu'il faisait des coupes plus grosses dans moi dans le désert. Je l'ai pas vu passer. Donc, je me dis, au moment où je me couche le premier soir, 144 kilomètres, je sais qu'ils sont derrière moi. Mais je sais pas s'ils sont à 5 minutes, 5 km, 10 km, 3 heures, s'il y en a qui sont restés à équiquer pour dormir, je n'ai pas du tout l'information. Et cette prise d'information, en fait, c'est coup de chat. Ça se dit pas ça. cette prise d'information, c'est gros coup de bol. on la coupera pas parce qu'elle est bien de ne pas la couper, celle-là. C'est gros coup de bol parce que juste avant d'éteindre la lumière du plafonnet de la voiture, parce que tu essayes d'économiser au max la batterie de la bagnole, tu vois qu'il y a une voiture au loin qui est en warning. Et en fait, personne ne s'arrête en warning sur le désert, à part la voiture qui veut signaler à son coureur qu'elle est en train de s'arrêter là. Et donc, tu vois la voiture en warning qui est passée devant toi et qui se garde 2 kilomètres plus loin. Et tu vois, je sais pas, 10 minutes, une demi-heure après, une toute petite lumière, une petite Petzl qui passe. Et là, tu lances le plus grand cri de la Terre parce que tu retrouves un copain de galère au milieu du désert. Et ça, tu vas le vivre donc de manière totalement inattendue, sporadique. Et les mirages dans le désert, c'est de voir ça, en fait. C'est pas de voir des oasis, parce que bon, 100% t'en verras pas, hein, là-bas. Mais c'est de voir ça, c'est de voir un copain de galère. Et moi, j'ai eu la chance ou l'infortune, mais plutôt la chance, de pas mal courir avec Max le chinien et Lucie l'américaine. On était à peu près dans le même tempo, on se retrouvait tout le temps, je pense.
Mais tout le temps, c'est quoi? On se croise une fois par jour dans le meilleur des cas?
Oui, tu croises une fois par jour, ça dure 20 secondes parce que t'es en train d'avancer, parce que sinon tu vas dégrader ta moyenne de 10 minutes au kilomètre, tu vas passer à 10 minutes et 20 secondes. Donc si tu t'arrêtes plus de 20 secondes, c'est pas possible.
Tu peux marcher aussi là, sur la fin?
Oui, clairement. Non, l'américaine Lucie m'a fait halluciner, elle m'a doublé la dernière nuit. Juste avant qu'on se couche, j'ai souvenir que je suis tout nu dans la voiture, justement. Je la vois passer sa lumière au loin. Je l'appelle et donc on lui fait la teuf. Et elle, justement, en fait, voilà, on a envie de parler de tout, mais elle aussi, elle est en train d'avancer. Donc elle reste rien, 10-15 secondes avec nous. Et elle remarque pas que je suis tout nu, c'est ça qui m'avait fait rire. Elle m'a dit « Ah non, mais je n'ai pas du tout remarqué. » Et elle s'enfuit en courant avec ses bâtons. Alors que toi, tu te dis « Bah voilà, moi je vais me coucher, je vais me réveiller dans 6 heures. » Et peut-être que je la recroiserai demain parce qu'elle va s'arrêter ou quoi. Et donc ça arrivait souvent de se croiser. Étonnamment, le matin, on se croisait beaucoup. Ou du moins, je pense qu'en fait, on avait des facilités à se repérer du fait de repérer des voitures à 10 bornes de vision qui se mettent en warning. Et donc, tu arrives à tilter que là, OK, il a 10 bornes devant. Bon, il a 1h30 ou 2h devant, mais je le vois. C'est très différent de la croix du bonhomme sur l'UTMB où tu vois Courtenay qui est 4 minutes au-dessus, mais tu la confonds avec les 4 ou 5 autres coureurs dont tu imagines que tiens, non, mais ça, c'est peut-être Blanchard qui doit être tout en haut déjà. Ils sont deux, donc non, il doit être avec Jim. C'est très, très différent de cette ambiance-là parce que ça reste ultra exceptionnel. Et pour la petite histoire, il y a James qui termine en deuxième temps le TSP qui, lui, est parti sur un délire de Goudron Islava. Grosso modo, il y a un jeu qui s'appelle Floris Lava. C'est tu dois, quand tu es dans une pièce, tu ne dois pas toucher le sol. Tu bascules en sautant d'objet en objet, mais tu ne dois pas toucher le sol puisque c'est de la lave. Et lui, il a essayé d'appliquer ce principe là-bas avec le goudron. Et donc, il s'est interdit de passer sur le bord de l'autoroute. Et donc, il est passé quasiment que dans le désert. Il a fait des énormes coupes de désert. Je crois qu'il avait une équipe de tournage qui le suivait. Donc, je pense qu'ils vont sortir un film de Maboule parce que lui, on l'a pas vu. En fait, il y a un moment, j'ai croisé son assistance. Ils sont arrêtés en bagnole. Et ils nous expliquaient, ouais, là, il doit être 2 heures par là dans le désert. Ils avaient une puce GPS, mais le mec est parti au milieu de nulle part. Lui, il a vécu une aventure encore différente et encore.
Il pouvait passer les 6-7 heures sans voir personne, là, selon tu
il
parlais.
Il a passé 8 heures sans voir personne. Ça a été un peu juste au niveau de la flotte. J'aimerais bien que. J'espère qu'il va y avoir un film ou un truc comme ça parce qu'il a vécu quelque chose de fou, lui aussi.
Là, le fait de vous voir, c'est un effet qui te. C'est motivant, c'est boostant. Est-ce que c'est triste de se séparer ou est-ce que voilà, ça fait une espèce de petit électrochoc et ça te reconnecte quand même à ta réalité de. Même si c'est pas une course, en tout cas, de compétition et de pourquoi t'es là aussi, ça te ramène à ça?
La compétition devant, derrière, etc., tu t'en fiches. C'est exactement comme quand, sur la fin d'un ultra, on dit il est 10 minutes d'avant, il est crevé. Non, mais attendez, déjà, j'essaie de survivre moi, après on verra pour les autres. Quoi.
Ça te reconnecte au projet dans ce sens-là que je voulais entendre plutôt.
Non, par contre, en fait, ce que ça fait, c'est que dans cette folie, t'es pas tout seul et ça te rassure. Juste, ça te rassure de. Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont en train de le faire et qui sont en train de vivre les mêmes trucs que moi, donc c'est normal et ça rationalise complètement ce que tu fais. Et à chaque fois que moi, j'ai plutôt doublé, que je me suis fait doubler, parce qu'on se faisait souvent doubler nous la nuit, parce qu'on faisait des pauses de 6 heures là où les gens faisaient pas de pause aussi grande en tout cas. Donc on se faisait doubler la nuit, on le faisait pas voir. Mais en fait, dépasser des gens et de repartir, le moment où je repartais, c'est comme si j'avais pris un Red Bull, je reprenais pour 1 heure, quoi. Pendant 1 heure, j'étais jovial, ça allait bien, avec toutes les souffrances qui vont avec, mais ce rationnel de se dire, en fait, c'est normal ce qu'on fait, je suis pas tout seul, tout va bien, les autres vont bien, ils se sentent bien, ils sont encore vivants, bon. Vu leur tronche et vu leur physique, je suppose que je dois être pareil, donc effectivement on se fait du mal, mais ça va là, ça va mieux d'un coup.
Une question qui pique pour clore ce chapitre, Alex, relative à Eric Judor. Il a pratiqué un sport à haut niveau avec d'importantes ambitions, est-ce que tu saurais me dire lequel?
Putain, merde, parce que je suis sûr de l'avoir entendu ça. Pas de l'escrime?
Non,
judo? Non,
Judor.
Judor. Ah, je peux avoir un indice.
Sport individuel, sport de balle, individuel.
individuel de balle.
Ouais.
De balle individuelle. Il y a des sports individuels de balle.
Ouais, ouais. Jaune.
Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a Hervé, le preneur de sang, qui vient de me mimer. Il a fait le mime le plus efficace de la Terre. Il a fait juste le mouvement, là, comme ça, avec la main, de haut vers le bas. Très discret. Très discret. Ni vu ni connu. Au bac blanc, là, ça passait.
Ouais.
Je pense qu'il a fait du tennis, Eric Judor.
Franchement, je sais pas comment t'as trouvé tout seul. Ouais.
Mais, ah ouais?
Alors, ouais, il est parti après le bac. Il s'est persuadé qu'il était pour être tennisman pro. Donc, il est parti aux US quand même. Il a passé un an là-bas. Et arrivé là-bas, il a eu une révélation, c'est que il s'est rendu compte que Michael Chang avait un an de moins que lui et qu'il venait de gagner Roland Garros à ce moment-là. Et il s'est dit, j'arrête. Il a pas touché une raquette pendant 10 ans et il est revenu en France. Donc voilà, il avait un niveau qui était pas non plus top. Je crois, il a été 4-6, que je sais pas si tu connais Anthony, c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas à ce point-là. Voilà. Bref, insoupçonnable.
Insoupçonnable.
Autre chose insoupçonnable, il parle allemand. C'est pas dans mes questions qui piquent, mais il parle allemand.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de qualités, hein.
Ouais.
Ouais.
Il est très drôle, en tout cas. Il n'y a pas de doute possible. Merci beaucoup, Alex. Proximité entre Problemo, c'est ton aventure TSP?
Lointaine, 4.
4, ok. Si on piochait un huitième thème.
Et c'est parti. Deuxième film français, Le Petit Monde de Don Camillo.
Vu, pas vu?
Vu il y a très longtemps avec mon grand-père. Et j'ai failli le voir hier soir parce qu'il passait sur une chaîne de la TNT très tard.
Improbable. Film de 1952 avec Fernandel et Gino Cervi. Donc, Le Petit Monde de Don Camillo raconte les péripéties comiques et émouvantes du prêtre catholique Don Camillo et du maire communiste Pépone dans un petit village italien d'après-guerre. Malgré leurs différences idéologiques, les deux hommes cherchent à préserver l'harmonie locale. Leurs affrontements souvent burlesques cachent une amitié profonde, tandis que Don Camillo dialogue régulièrement avec la statue de Jésus pour trouver guidance et récompense. Et réconfort, pardon. Et récompense aussi, peut-être. On ne sait pas. Il y en a eu 6. De quoi faire pâlir de jalousie Fast and Furious ou Saw. C'est quand même pas mal.
Beaucoup de production.
Ouais, pas tout à fait. La bande-annonce, elle dure 4 minutes. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'infliger ça. On va juste se le mettre pour l'ambiance.
Déjà, je pense que l'intro de la bande-annonce fait déjà au moins 30 secondes avec tous les logos.
Ça va faire voilà. Charme sur un nez.
SNA présente. Général, parle aux Français. Prochainement sur cet écran. Triomphal, succès des librairies dans tous les pays du monde. Il marque quand même beaucoup de choses à l'écran.
Ouais.
Nous avons l'intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église.
Ah, c'est vrai, comment et pourquoi budget cloche. Il n'y avait pas le budget voix, mais il y avait le budget cloche en post-synchro.
Tout seul.
Et une croix, bah voilà, parfait, c'est ce qui va nous intéresser, la croix.
Liberio Antonio.
Seigneur, si j'étais mon serviteur, laissez-moi lui passer ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grave.
Ah, c'est terrible.
Ça n'a pas vieilli, hein.
Non, ça
a son charme.
C'est la musique qui a son charme, en fait, je pense.
Ouais.
Comme celle-là.
Est-ce que tu savais que la croix symbolisait la fin de la course? Si j'ai pas de bêtises, j'espère ne pas en dire une.
En fait, quand ils nous avaient dit l'arrivée, elle est pas à San Pedro parce que c'est trop galère, il y a trop de chiens, c'est trop dangereux. On va la faire juste à côté, à un endroit où ils disaient c'est la Cruz Papale. Et j'avais pas tilté hein, la première fois, j'avais pas compris que c'était une croix papale. En rapport avec le pape, très certainement.
Ouais, elle était pas très pâle. Peut-être.
Elle était blanche, mais j'ose espérer que c'était pas pour ça qu'ils l'ont appelée papale. Mmh. Mais oui, il nous l'avait expliqué, et j'avoue que en fait, j'ai pas repéré grand chose avec le Street View avant la course. Je me suis mis 2-3 points, 2-3 endroits où je me suis rendu compte qu'au final, c'était tout le temps la même chose. Après, je suis quand même allé voir l'arrivée pour repérer la fin, et j'avais repéré que c'était une croix sur une petite montagne, une grosse colline à la fin du canyon qui permet d'entrer dans San Pedro de Atacama.
Je l'ai fait là, mais j'ai peur d'oublier. Est-ce que c'était une cruise épique?
C'était une cruz épique. Elle l'est devenue, en fait. Elle n'a rien d'épique du tout. Si, elle est peut-être un peu plus chic que toutes ces croix que tu vois dans les montagnes françaises.
Elle est photogénique, hein, moi, j'ai trouvé. Elle est belle.
Très photogénique, parce qu'en fait, la lumière brûle toute l'image aussi, souvent. Et cette grande croix blanche immaculée, légèrement en hauteur, donne du charme au moment. Et pour moi, c'était un peu particulier parce que je suis agnostique. J'ai plutôt une sensation vis-à-vis de la religion où le plus loin je m'emporte et le mieux je me porte. Et qu'on me dise, alors là, tu vas faire le défi de ta vie, etc. Et ça va terminer. Tu dois toucher la croix. Il y a des gens qui peuvent pas rentrer dans les églises, dans les synagogues ou dans les mosquées parce que ils ont, c'est pas une intolérance, mais il y a quelque chose comme ça en eux où ils savent que c'est pas leur endroit où ils ont envie d'être.
Ouais.
Et très clairement, moi, j'ai désacralisé la croix elle n'était pas l'instrument de crucifixion de Jesus, mais c'était globalement juste un tout petit monument à la sortie de San Pedro, parce que on pouvait pas le faire parce que c'était trop dangereux. L'autre truc, c'était s'il y avait des, il y aurait eu des chiens.
Un rôle fonctionnel globalement.
Exactement. Et visuellement, c'était bien pratique parce que elle était avant. Il y avait grosso modo 5 ou 6 virages sur toute la course. Et il y a le dernier virage qui.
Un par jour, quoi.
Quand t'as du bol. Moi, il y a un jour, j'ai pas eu de virage du tout. Et t'as le dernier virage. Et donc, tu vois les personnes arriver de loin. Et c'est en fait un bon endroit de rassemblement pour que quand toi, t'as fini, en fait, tu passes te prendre une petite douche. Et tout le monde se retrouve à cet endroit-là pour accueillir les autres participants pour les solos. Et après, quand il y a les équipes qui arrivent, les autres équipes. Donc, c'était. Moi, j'ai désacralisé complètement le truc. J'ai pas vu de concurrents qui ont eu des signes religieux ou quoi vis-à-vis de ça. Donc, je pense que maintenant, dans ma tête, comme le triangle de l'amitié et cette église qui a juste au bout, ça a la même valeur pour moi. C'est
un élément du décor.
Exactement.
Et c'est un moment que tu as imaginé longtemps, là, cette croix, tu l'as fantasmée comme dans une aventure comme ça. Est-ce que tu, au bout de 50 bornes, tu considères que tu es arrivé et que tu la touches du doigt et elle t'obsède et tu as envie de la voir, ou est-ce que c'est. Anecdotique, enfin, ça s'occupe
pas. Tu connais ce truc-là où moi, je pense beaucoup, tiens, je me ferais bien une. Je sais pas pourquoi, c'est souvent l'entrecôte frite ou une bavette frite qui me vient très vite en tête dans la course en me disant, putain, j'ai envie de ça à l'arrivée.
Il n'y a pas de frites en Lufthansa encore, ils ont pas.
Et ouais, non, la bavette frite, ils l'ont pas encore fait. Ou une bière, ou imaginer la ligne d'arrivée. Il y en a qui la visualisent pour s'aider, et moi, j'ai toujours trouvé que ça m'aidait pas, en fait, et que quand j'y pensais souvent trop tôt en course. Et que c'était pas le moment d'y penser, c'était le moment d'être concentré parce qu'il y a des camions. Et donc là, c'était exactement ça. J'y ai sincèrement très peu pensé parce que c'était, il y avait déjà tellement de choses à gérer que cette perspective n'était pas présente. Et en plus, étonnamment, à la fin, c'est le seul endroit qui est vraiment dans des canyons ultra vallonnés. Pas le seul, mais c'est un des deux, trois passages où la vision horizontale ne permet pas de voir l'horizon. Tout le reste du temps, tu vois l'horizon, tu vois la courbure de la Terre. Ça fait très bizarre de voir la courbure de la Terre, en fait. La Terre est ronde, hein, je vous le dis.
On a un scoop.
Scoop, les platistes, la Terre est réellement ronde, je l'ai prouvé à Takama. Mais non, ouais, c'est un des rares endroits où, c'est un peu vallonné, tu as la vision sur tous les grands volcans chiliens derrière au-dessus de San Pedro. Étonnamment, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'ils nous fassent arriver à un autre endroit encore pour que ça soit toujours des endroits différents. À Las Vegas, ils le font arriver sous le signe de Las Vegas, tu sais, l'entrée de la ville, là, le truc semi-losange avec les couleurs, qui est a priori un spot à photographe. Et donc chaque année, il y a énormément d'embrouilles avec les photographes locaux qui sont là pour faire des photos qui font payer aux touristes. Et il y a embrouille parce que bah voilà, t'as couru 500 km dans le désert du Nevada, tu peux pas te prendre une photo tranquille tout seul sans avoir à la payer. Donc chaque année, il y a une méga embrouille avec les photographes là-bas. C'est pas encore le cas à San Pedro.
J'ai l'impression que c'est moins fréquenté.
Ouais, il y a personne. Il y a quelques touristes. Étonnamment, il y a quelques touristes dans le coin parce que c'est le point de départ pour aller visiter le désert et le désert de sel. Au niveau de la croix, il y a pas grand chose et grand monde à voir.
C'est quoi l'émotion là qui domine à ce moment-là? Il y a la place pour ça ou il y a tellement d'usure physique que tu t'accordes un peu de submerger par des émotions?
Il y a de l'émotion dans tous les sens, mais tu vois, il y a plus de larmes parce qu'il y a eu trop de larmes. L'émotion, elle est tellement forte que il y a rien qui sort, mais c'est OK, j'ai juste envie de me poser, juste deux secondes, boire une bière et parler enfin avec Lucie et Rob. Donc Lucie qui termine en troisième temps et Rob qui avait terminé un jour avant. Ils sont venus à mon arrivée et juste pouvoir débriefer. Ouais. Pour pouvoir débriefer. Et il y a tellement de choses à raconter sur les 500 derniers kilomètres. Comment ça s'est passé vous? Est-ce qu'on a vécu les mêmes choses, pas les mêmes choses? Tiens, c'est bizarre, on s'est croisés à ce moment-là, mais tu m'as rattrapé pendant la nuit. Non, t'as coupé par le désert. Enfin, comprendre tout ça. Comprendre la vie des crews aussi. T'as vécu un truc en même temps. Ce truc du cinéma, en fait, le truc du cinéma et pourquoi le cinéma c'est génial et que c'est mieux que de regarder un film chez soi, c'est qu'on vit le truc tous en même temps, etc. On sent qu'il y a une ambiance dans la salle, mais ce qui est encore mieux, c'est quand on peut juste d'ailleurs sortir, se mettre à un bar, être avec un pote, débriefer du film et à côté de nous, avoir un couple qui est en train de débriefer du film aussi et peut-être réagir là-dessus. Et ça, c'est génial pour ça, quoi. Donc le film a finalement. Il sert l'émotion sur le moment, mais sur la suite, c'est juste le partage qui est intéressant.
Est-ce qu'il y a de la place pour de la nostalgie, déjà, ou un sentiment de vide?
Dès le troisième jour, le moment où j'ai compris que ça allait se terminer et que je ne savais pas que ça allait être aux 5 ou 6 jours, j'étais déjà en train de me dire, j'ai envie que ça continue et j'avais envie que ça continue plus longtemps. Donc, à la fin, la nostalgie était déjà consommée depuis 2 jours. Ça faisait 2 jours que j'avais anticipé que c'était fini. Et savoir que un truc comme ça, justement, c'est pas un dossard que tu peux avoir en avance, c'est pas un truc que tu sais déjà d'avance que tu pourras y reparticiper. c'est un gros engagement en termes de temps, de frais financiers. Donc, je sais pas si je pourrais le refaire à ce moment-là. Et je tente juste de profiter encore du moment, quoi.
Quelques chiffres quand même. Donc, 486 kilomètres au final, en fonction de la trace que toi, t'as faite. Exactement. 71h30 en déplacement et 109h37 en cumulé au global. Donc,
on s'est fait plaisir sur les nuits.
Hein. 38 heures sur 5 jours. Bravo. Et 5900 mètres de dénivelé positif. On n'en a pas parlé, mais tu l'as dit, ça a été finalement assez progressif. Peut-être un peu moins à la fin, donc plus vallonné, mais globalement, c'était quand même...
70 bornes au bord de la mer. Donc là, on est niveau zéro. On se prend plus 1000 d'un coup. Donc là, c'est un peu la seule vraiment montée franche, mais c'est pas une montée comme dans les Alpes. On la prend d'un coup, mais sur 10 bornes, donc c'est quand même relativement court. Une fois qu'on est dans le désert, on est entre 1000 et 1500. Jour 4 et 5, là, on monte à 3000 et on reste à 3000 et on monte à 3005. C'est marrant parce que je suis jamais monté aussi haut, moi, sur Terre. Je l'ai fait dans le désert d'Atacama. Et surtout, j'ai pas eu l'impression d'avoir été aussi haut. On m'a demandé si j'avais eu des problèmes d'altitude, de respiration, de quoi que ce soit. Zéro souci. C'est tellement progressif. Quand tu montes 3000 mètres sur 40 bornes, tu les vois même pas.
Question qui pique, Alex, pour ceux qui étaient avec Don Camillo. C'est un vrai faux. Chance sur deux. Fernandel a été invité à rencontrer le pape de l'époque suite à son rôle de Don Camillo. C'est-il vrai ou c'est-il pas vrai?
Je pense que c'est vrai. Tu l'aurais pas inventé, ça.
Je l'aurais pas inventé. Je t'aurais pas dit que ça aurait été le 18 janvier 1953 à Rome. Donc, effectivement, il était invité par le pape Pie XII pour faire la connaissance du plus connu des prêtres de la chrétienté après lui. Tu vois, il a quand même placé assez dans la hiérarchie. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Indice de proximité, donc à Millau, là, on sent que c'est pas. On est plutôt sur du 0 sur 10, là.
Ouais, on est sur un 2 sur 10. On va pas vous gruger les auditeurs, mais on s'est servi de ça pour parler de l'arrivée. Mais.
De la croix, on a fait lien comme ça. Alex, je te demande de piocher 9e thème. Yes.
Numéro 9, Very Bad Trip, ou Hangover, je crois, en version américaine, peut-être.
Absolument, et Lendemain de veille, en québécois. C'est Todd Phillips, le réalisateur, on en a parlé déjà à plusieurs reprises tout à l'heure. Bradley Cooper, Zach Galifianakis et Ed Helms sont les trois personnages emblématiques. Tout le monde connaît l'histoire, mais c'est au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé. Les trois amis du fiancé se rendent compte que le futur marié a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En plein Las Vegas, ils vont donc devoir résoudre le mystère de la disparition de leur meilleur ami. Alex, on se parle de ça. Pourquoi? Parce que vous avez le droit à une pool party des familles à l'arrivée. C'était un peu ça. Donc, c'était à la fois la barrière horaire et en même temps le temps d'une... C'est une grande célébration. Il y avait combien de tigres dans ta salle de bain là, le lendemain matin au réveil, après la soirée?
Je sais pas, mais la boîte locale, elle a eu une fermeture administrative. Donc, moi, c'est la première fois de ma vie que...
Vous avez poussé le bouchon un peu?
Bon, on a fait la teuf, quoi. Et je pense que des gens qui ont traversé le désert d'Atacama, qui ont pu se reposer, faire une vraie nuit de 10 heures, se taper une petite journée, grosso modo, la pool party a commencé à midi, elle a terminé pas très tard, elle a terminé à 2 heures, mais c'était...
Efficace.
On est bien bien chaud pour faire la teuf généralement après ce genre de choses là. Enfin en tout cas moi.
T'as retrouvé qui? Donc il y avait l'ensemble des concurrents, il y avait leurs gars, c'était.
Alors il y avait les 7 coureurs solo plus tout leur crew, ça doit faire une petite entre 20 et 30 personnes, plutôt une trentaine. Plus après en fait il y a donc 20 équipes en relais qui sont au minimum 6 parce que il faut au minimum 6 personnes par équipe plus parfois du média qui est autour, des conducteurs, de la logistique. Donc là ça commence à rajouter pas mal de monde à cette affaire. S'il faut dire 120 un petit peu plus, on était 150-180 à la pool party. Pour une piscine qui n'était pas du tout faite pour 180 personnes, je pense qu'on pouvait rentrer à 20 max dedans, donc c'était un trou d'eau. En même temps, au milieu du désert d'Atacama, tu t'attends pas à avoir une piscine olympique. Mais le principe c'est ça, c'est l'aventure du TSP ne s'arrête pas simplement à la course, elle s'arrête plus tard, elle s'arrête après cette cérémonie de la pool party, où tout le monde...
Tu parles que de ça ou t'as envie de parler d'autre chose justement, ou t'es en boucle sur ce que tu viens de vivre sur le TSP cette soirée là chacun revit et raconte son fil, le film de son histoire?
Un petit peu, déjà on se rend compte qu'en fait les solos on a vécu des trucs totalement différents par rapport aux équipes. Les équipes eux ils ont vécu un truc, les Slovaques qui gagnent, eux leur délire c'était ils faisaient des sprints de 500 mètres à la suite, donc coureur 1 500 mètres de sprint, coureur 2 se prépare, descend 500 mètres de sprint, coureur 3 500 mètres de sprint pendant 500 bornes. On est quand même sur un concept.
Ils ont tenu pendant les 500 km.
Ils ont fait 1000 rotations. ils ont fait 1000 rotations à 500 mètres de sprint à chaque fois, quoi. Donc, ils ont vécu la traversée du désert de manière totalement différente de la mienne.
Maintenant, les zombies, tu sais, t'as une idée?
Je me rappelle plus. Ça, faut que je regarde, mais je me rappelle plus. Mais oh, je pense que
deux jours.
Non, je pense qu'ils ont mis beaucoup moins de 40 heures. Je crois qu'ils ont mis moins de 40 heures. Okay. Donc il y avait les Slovaques qui eux étaient mieux organisés parce qu'ils avaient anticipé le truc et eux ils avaient loué un camping-car, donc ils pouvaient en plus avoir des gens qui dormaient potentiellement à l'intérieur, se reposer, allonger. Jolie foulée, il y avait une équipe française qui était là. Okay. Eux, ils ont opté pour une stratégie que déjà, moi, je trouvais folle, c'était sprint tous les 2 km. C'est donc tu fais 2 km, boum, l'autre prend le relais, 2 km, 2 km, 2 km.
Mais chacun sprint ?
Bah, tu vas le plus vite possible pas, ouais. Pendant 2 km sur 500 bornes. Donc, ils ont vécu en fait une aventure totalement différente de la nôtre parce que eux, ils n'avaient pas une logistique de sommeil, une logistique de d'eau, de machin, parce qu'il y avait 2 bagnoles, parce qu'ils étaient 6, pas de problème de sécurité non plus. On se rend compte qu'on a vécu 2 trucs différents, mais qu'on a traversé le même désert. On peut parler un peu avec les orgas. À chaque fois, on dit orga, mais avec les gens qui ont proposé à des gens de faire ça. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le présenter. Et ce qui se passe, c'est que donc, on bouffe bien, gros barbecue, il y a tout l'alcool qu'il est nécessaire. Il y a Max, mon copain chilien, qui lui a traversé le désert d'Atacama en solo. C'était le truc physique le plus fou qu'il avait jamais fait. Donc lui, c'était le mec où dès que tu le croisais autour de la pool party, il faisait « Ah yeah, yeah, Alex, come on, come on !» Et il balançait du mezcal jusqu'à ce que tu lui dises « Là, non, on arrête. » Donc non, ouais, ça a donné un petit côté sympa. Grosse musique, un DJ au bout de la piscine qui était protégé lui aussi du soleil, parce que le soleil est toujours présent à ce moment-là, par 4 parasols jaunes et oranges. En fait, j'avais l'impression d'être dans un clip des années 70, avec des gens qui venaient de cultures totalement différentes et ça se voyait sur les fringues, mais qui étaient passionnés par la même chose. Donc ça crée un univers quand même très 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 particulier, quoi.
Donc vous avez fait fermer cet endroit-là ou après le
non,
club
ça, c'était l'endroit
vous avez
on était,
après,
on
encore descend
descend et après le club karaoké déjà on a retourné le karaoké, ils nous ont fait croire que le karaoké marchait plus pour arrêter le karaoké et pour qu'on aille dans une salle plus grande parce qu'on était en train de ravager la salle. Et on a bien fait la teuf comme il faut. Moi, je n'ai pas de grands souvenirs de la fin.
Personne n'a fini au poste.
Non, on n'a pas eu de problème avec les autorités. A priori, c'est juste que la boîte, je pense qu'on leur on a fait faire trop de bruit et trop tard. Et qu'eux aussi avaient déjà dû déconner plusieurs fois avant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu fermeture administrative. À moins qu'on ait fait des dingueries, mais on n'est pas encore au courant. Donc non, je pense pas. Donc ouais, le petit côté Very Bad Trip, c'était ce côté-là. Et si, il y a un truc très Very Bad Trip, c'est que tous les organisateurs de courses qui vont écouter ce podcast, parce que t'en as qui t'écoutent, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, là, il y a une identité graphique qui est forte au TSP. Ils créent des petits personnages, des logos, des dessins, des signes spécifiques à la course. Donc il y a un univers graphique spécifique à la course. Et en fait, à l'arrivée, il y a un tatoueur. Donc, il y a un système pendant la pool party où tu peux t'inscrire. 2 personnes vont être tirées au sort. Tu fais un Shifumi. Et si tu gagnes, tu as le droit à un tatouage gratuit par le tatoueur sur place à ce moment-là. Donc, tu te fais tatouer en direct.
C'est piégeux.
C'est très piégeux. Quand tu viens de traverser un désert d'attaque, un désert, que tu as fait le truc le plus fou que tu penses avoir fait de ta vie.
Et c'est François Damien qui fait le tatouage.
Non, il ressemble pas à François Damien. Il ressemble à un mec qui aime beaucoup le tatouage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de centimètres de peau, il n'y en a pas, mais qui est très sympa au demeurant. Et on te met des bières au plein soleil toute l'après-midi sur la tête. Ne pas céder à la tentation de se faire un tatouage avec juste un petit truc marqué No Rules ou No Spectators.
Pour le souvenir, ouais.
Je suis passé vraiment pas loin. Et j'ai bien fait parce que quand on a quitté l'endroit vers 20h, 21h, j'ai le souvenir de descendre pour aller aux toilettes. Et le tatoueur était à peu près aussi bourré que tous les gens qui étaient là. Et il tatouait complètement à l'arrache sur un bord de table alors que lui était sur un banc un peu instable. Donc je me dis, il y en a 2-3, ils ont dû se réveiller avec des dingueries. Bon, ça fait le souvenir, ça fait partie du job. Mais donc s'il vous plaît, organisateur de course français, même si c'est une très bonne idée, très drôle, que ça vous rendra super original, ne faites pas ça parce que les gens se rendront compte quelques jours ou semaines plus tard que c'est une erreur totale. Il y a d'autres choses à faire, mais ne mettez pas un tatouage qui plus est gratuit.
Alex, qu'est-ce qu'on a oublié ?
De mater la bande-annonce.
De mater la bande-annonce.
Je pense que je m'en rappelle presque de la bande-annonce.
Allô ?
Tracy, c'est Phil.
Pas donc Camillo déjà.
Où vous êtes tous passés ?
À l'enterrement de vie de garçon toute la nuit, ça a un peu dérapé et...
Un peu dérapé. Euphémisme, c'est ça le...
On va se marier dans moins de 5 heures.
Je crois que c'est râpé.
On part en virée ! une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Viens parler.
C'est une autre poule partie là.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit?
Le tigre, le fameux.
Oh putain! Il manque pas une dent. Oh. Il est acquis ce bébé.
Il n'y a qu'à regarder sur son collier.
J'ai cherché partout, personne n'a vu d'autre.
Je crois que j'ai jamais une gueule de bois pareille.
Qu'est-ce que t'as au bras?
T'es allé à l'hôpital cette nuit.
Tu vois, blackout comme ça, t'as déjà eu?
Ouais, des blackouts comme ça, j'en ai déjà eu plein. Hein.
Combien d'inscriptions à des courses en soirée blackout?
Bah, je m'étais inscrit à la Diagonale des Fous comme ça la première fois. Ouais, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé cette nuit?
Félicitations, Stu, tu t'es marié.
Calmé depuis, mais.
Police de la dégâts, bougez plus!
Ces messieurs se sont portés volontaires pour une démonstration.
J'ai jamais fait de grosses bêtises. Il m'est arrivé plus des galères qu'autre chose.
Ouais.
En pleine poire! En pleine poire!
C'est le genre de film qui survit pas toujours bien à la version française.
T'es sûr que t'es qualifié pour t'occuper de ce bébé?
Ça, tu trouvais que le en pleine poire faisait
pas. En pleine poire, il manquait un petit peu de modernité.
Mais c'est quoi ce délire?
Chut.
C'est mon moment préféré là.
Oh, il en a encore un sacré. Oh,
j'ai beaucoup chanté, ça me le rappelle. J'ai énormément chanté. J'ai eu du
Phil
Collins. Pas pendant la soirée. Dans la vie, non. pendant le TSP.
Ah ouais.
Ouais, les trois derniers jours, j'ai sorti mon MP3 et j'ai énormément chanté. Et c'était assez terrible parce que j'hurlais dans le désert. J'ai un souvenir, ça je crois que je l'ai en vidéo. Terre brûlée, Cerdou,
Michel, ouais.
Lac du Connemara. Bon, pas la meilleure ref, mais en plus, j'ai eu le dernier jour. Mais à hurler dans le désert, c'était. Ouais, je fermais la soirée étudiante, c'était bien. C'était bien.
Beau souvenir. Improbable.
Totalement.
Les soirées, normalement, les soirées étudiantes, mais là, non, au milieu du désert de l'Atacama.
Là, c'était plus. Non, mais c'était la dernière journée, j'étais à 15 bornes de l'arrivée, donc justement, ça me permettait de faire la clôture de ça, quoi. C'était très, très bien.
La fin du banquet. Alex, une rapide question qui pique.
Ouais.
On l'a vu là dans la bande-annonce. Stu, un des trois protagonistes, se réveille sans dents. Tu vois ce passage?
Ouais.
Le matin. Qu'est-ce qu'il y a de pas si étonnant dans cette scène, finalement? La réponse est à moitié dans la question. C'est qu'il n'a jamais eu cette dent.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'incisive définitive qui a poussé à cet endroit-là. Et donc, en fait, il avait une prothèse dans la vie.
L'acteur, incroyable.
Et qu'il l'a juste enlevée pour le film. Mais qu'en réalité, cette dent n'existe pas chez
lui. Il a été d'ailleurs choisi pour ça.
Ça a été un des critères déterminants. C'était celle qui remplissait effectivement cette condition-là. Voilà. Ils ont rajouté quand même le nom du dentiste dans le générique de fin. Pas mal. Alex, je t'ai pas demandé l'indice de proximité sur Very Bad Trip et ton aventure TSP. Enfin, sur ce passage-là, en tout cas.
Sur ce passage-là, on était sur un petit 6-7 quand même, parce que c'était quand même des dingueries.
On s'est tout dit, je crois, sur Very Bad Trip. On est maintenant vendredi, ça fait 3 jours qu'on a commencé l'enregistrement de cet épisode, je pense, à peu près. Mais on a quand même un dernier thème. On va essayer de mettre la bande-annonce à peu près au bon moment.
Le dernier.
Numéro 10 dans ta
et
team.
Le dernier thème, enfin le dernier film, c'est un film qui a été relativement peu vu et que les gens ne doivent pas connaître, qui est Intouchable. Je ne sais pas de quoi ça parle, ce truc.
Jamais parler, ouais.
Jamais vu.
J'espère que ce n'est pas Eco Marcy.
Je déteste ça. Et l'autre, l'autre qui s'énerve tout le temps. Là,
je vais chercher mon papier.
Bordel.
Par rapport
au... Entrez.
Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça ne vous gêne pas de vivre sur le dos des autres?
Ça va, merci, et vous?
Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler?
Vous en avez de l'humour.
J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous ne tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf.
Donc là, il est en train de mettre de l'eau bouillante sur les jambes.
Je me souvenais pas
de ça. Il n'y a pas de sensation de la douleur, j'ai pas de sensation.
Tu n'as pas eu ça pendant Atacama?
Exactement.
Moi, je ne
vais pas vous mettre des bas. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on les met pas, on reste là.
Moi je me suis pas respecté, hein.
C'est bon comme ça?
J'ai un pantalon rempli de pisse pendant 3 jours.
Bon appétit.
Eh, s'il vous plaît. Oh.
C'est qui ce type? Autour de toi tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état.
Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large?
Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où?
Respirez un peu.
Ça y est, voilà. 100 euros que j'ai mis dans le ventre.
Tenez.
Touchant ce film, hein?
Ouais, très touchant. Oh, il donne envie de vivre. Oh, là. Il donne envie de retourner dans le désert.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait re-signer sur le PSP direct. Là. Sympathique comédie. On est bon sur Intouchables. Donc c'est les frères, enfin c'est pas du tout les frères d'ailleurs, c'est Olivier Nakache et Eric Toledano, pas du tout, mais ils sont tellement indissociables. Donc Audrey Fleurot quand même pour compléter le casting. Donc le synopsis rapidement, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi, Earth, Wind & Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...
inséparables.
Qui est le nom du film.
C'est pas ça
mais... Pas dit, on m'aurait menti. Intouchable, donc derrière ça, ce qu'on a envie de se dire là, c'est cette réussite en solo, c'est une réussite à deux, avant tout, en tout cas dans votre cas. Quelle place là pour Charlotte dans la réussite dans ce projet?
Ben en fait, rien dans le nom de la course, tu vois, TSP Atacama Solo, c'est le nom officiel de ce truc qui ne l'est pas officiel. Ben en fait, t'as le mot solo dedans, mais en fait, tu peux pas faire le TSP solo en solo. Ça n'existe pas. Donc, ben la place, c'est si elle n'est pas là, moi, je le fais pas, je le réalise pas. Intouchable, le truc, c'est... On a Cluzet qui n'a pas besoin de Driss pour vivre parce que matériellement, il pourrait faire 100, etc. Moi, matériellement, je cours, je n'ai pas besoin d'avoir ce truc-là. Mais au final, si, pour réellement vivre, j'ai besoin de Driss, de Omar Sy, de ma Charlotte, qui me ravitaille en nourriture, en eau et en sourire, et toi, en final, en amour. Et ce truc-là, tout le long... C'est un truc où je m'en suis rendu compte à partir du moment où je me suis éloigné de l'autoroute et d'elle. On avait beau être uniquement deux dans le désert et il n'y avait personne d'autre à des milliers de kilomètres. Chaque mètre où je m'éloignais d'elle et chaque possibilité que je ne la vois pas était un moment de détresse absolue. Et je me rendais compte à quel point en fait j'étais un petit enfant sans défense, sans rien. Quand elle n'était pas là et que je ne savais pas qu'elle n'était pas là, tu vois, c'est ce côté Œdipe maternel d'aller dans les jupes de ma mère et savoir que la jupe de ma mère est pas très loin pour que moi je sois en confiance. Mais j'avais exactement ça moi vis-à-vis de Charlotte pour pouvoir survivre. Et j'ai, en fait, on a reparlé après, on en a parlé pendant et après. On est en couple, ça t'arrive de t'embrouiller ou quoi. Et en fait, surtout dans des moments de crispation comme ça, où il y a de la galère à gérer, où moi ça va pas bien, je suis au fond du trou, où elle passe quand même 15 heures par jour à courir dans tous les sens, entre la bagnole, les camions, etc. Donc tout peut arriver en termes d'énervement. Et non, en fait, on raisonnait à la même onde. Tout le long, on était calés sur le même rythme. Elle avait beau pas courir, j'avais l'impression qu'elle courait avec moi. Je sais pas comment bien le décrire, ce truc-là. Mais c'est en fait... Je suis bien content que les trois mecs des médias, ils aient pas été là. Parce que l'aventure était trop différente si on n'était pas à deux. J'aimerais bien refaire un TSP Atacama. Mais si je le refaisais avec Loïc, j'ai déjà vécu 25 000 des aventures avec Loïc, je sais que je le vivrais tellement différemment que ça aurait pas de goût. Au même titre que dans mon souvenir, Omar Sy, au bout d'un moment, il se barre, il n'est plus dans la gestion de Mr. Cluzet dans le film, et c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, et ça se passe pas bien parce que c'est pas le même traitement. C'est parce que ça s'est passé comme ça, à ce moment-là, que l'histoire est si belle et magnifique pour moi. Le refaire avec quelqu'un d'autre, ça va être très difficile. Et je sais que c'est une possibilité de le refaire avec quelqu'un d'autre. Donc ce que j'ai très envie maintenant, c'est d'inverser les rôles, et c'est en fait que ça soit moi qui soit dans le pick-up et ça soit Charlotte qui court. On verra s'il y a une possibilité ou pas de le faire, mais ça peut être très certainement le TSP Atacama ou autre qui pourrait y avoir. Et j'ai envie d'inverser les rôles, ce que Omar Sy et Cluzet ne peuvent pas tellement faire, à part si Cluzet fait venir Omar dans son propre monde, mais Omar, il pourra jamais amener réellement Cluzet dans le sien, quoi.
T'as vu, toi, des doutes ou de la difficulté chez elle? Est-ce qu'à un moment, t'as pu t'inquiéter aussi, parce que toi, t'es au cœur de l'engagement physique, etc., mais est-ce que toi, t'as pu voir aussi des moments un peu de faille, où elle était peut-être moins bien, où elle avait besoin que tu sois là pour elle?
J'ai vu un Terminator de l'organisation, de la logistique, de rien montrer, même si... Le dernier jour, elle m'a dit « j'ai très très mal dormi ». Et pourtant, j'ai rien vu de la journée. Quand elle a dit « j'ai très très mal dormi », je suppose qu'elle a dû dormir une heure pas bien dans un pick-up après 5 jours, avoir dormi dans un pick-up. Et l'inconfort d'hygiène aussi que tu peux avoir. Non, en elle, j'ai vu que de la force. Genre de la force et de la maîtrise. Et s'il y avait des doutes, Sincèrement, il va lui falloir lui donner un César, un Oscar, ce que vous voulez, parce que en termes d'interprétation, on était quand même dans une interprétation de on gère, ça se passe bien, totalement maîtrisé. Donc je sais que ça a mis sous tension Cécile Bertin, qui me fait d'habitude mes assistances, qui a dû se demander, putain, ça y est, il a peut-être trouvé une meilleure assistance, quelque chose qui, avec quoi, il a une réelle connexion. Mais je te rassure, Cécile, au-dessous de 500 bornes, on fera pas avec Charlotte, nous on fera que les trucs un peu comme ça, quoi.
Tu t'es quand même questionné sur éventuellement ce que tu pouvais lui imposer d'une certaine façon avec ce projet-là, de ce qu'elle pouvait ressentir et tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je ne suis pas dans une situation d'inconfort? Je sais qu'il y a des. Tu parlais à un moment des questions de sécurité qui étaient un peu stressantes parfois ou autre. Ou est-ce que globalement, tu t'es dit, peut-être que je ne devrais pas l'emmener dans des choses comme ça?
Très souvent, le premier et le deuxième jour, jusqu'à ce que comprendre qu'elle aussi, elle était en train de s'éclater et qu'elle me le dise et que je le sente que c'était pas un « non, mais t'inquiète, je m'amuse quand même, je suis bien ». Non, c'était pas ça. Je sentais qu'il y avait un réel... Elle traversait aussi le désert d'Atacama. Et au final, c'était pas... Je préfère dire le mot « crew » parce que ça me permet au moins de pas utiliser le mot « assistance » qui est péjoratif en France, en tout cas. J'ai l'impression qu'elle a vécu aussi un truc qui est tout aussi, voire plus intense que moi, parce que elle a en plus tout son cerveau à ce moment-là pour réaliser ce qui est en train de se passer. Donc c'est très différent. Et d'ailleurs, j'en reviens à la pool party, mais à la pool party, donc on a une cérémonie de remise de prix, si tu veux, de finisher, et le premier truc qu'on remet au solo, c'est on te remet un prix que tu peux remettre aux personnes de ton crew. Donc, d'abord, tu commences par ça. Tu commences à féliciter les mecs qui se sont tapés, bah, pour moi, 3 avions, 27 heures de transport, des nuits en décalage horaire au Chili, des flips à Iquique, 5 jours dans le désert, parce que coup de bol, on en a fait que 5, de la galère de devoir gérer un mec qui s'est pris 500 bornes et qui est relativement fatigué pendant 24 heures après. Clairement, enfin, j'aime pas dire merci parce que je déteste me sentir redevable et elle m'a fait sentir que je n'ai pas à être redevable, donc ça c'est formidable, mais au fond de ma tête, c'est à charge de revanche. C'est bien évidemment, Charlotte, tu le sais, bien évidemment que le prochain TSP, si c'est pas le prochain, celui d'après, c'est moi qui fais le crew, quoi, parce que moi aussi j'ai envie de voir ce que c'est de voir ce truc là d'extérieur. Bon, faut juste peut-être que je reprenne la main sur la conduite, on est d'accord. Déjà j'ai peur de conduire à Paris un petit Twingo, donc un pick-up ça va faire particulier, mais je devrais pas, et je pense qu'elle va pas être d'accord avec ça, mais moi je considère que j'ai une dette d'avoir eu ce truc là, quoi. Ce qui est un déséquilibre qui dans un couple est très dangereux, monsieur. Ce qui est très dangereux.
J'ai l'impression que ça vous a bien soudé, cette aventure aussi.
Oui, bien évidemment. Tu n'imagines pas à quel point, en plus. C'est vraiment un truc de fou. Vivre ce truc en couple, tu peux tout vivre après. Tu peux tout vivre.
On a hâte de voir la suite. Alex, on va clôturer ce thème-là sur Charlotte, ouais, avec une question qui pique, donc relative à Intouchable. Assez simple, je pense. Vrai, faux, le film est-il inspiré d'une histoire vraie?
Vrai.
Ouais, absolument. Tu sais quel accident a eu Philippe Pozzo di Borgo?
C'est un sale accident de bagnole avec une...
Parapente, on l'a vu dans la bande-annonce.
Ah oui, parapente, c'est pour ça qu'il lui fait, faire des parapentes.
Exactement. Donc voilà, Cluzet a passé pas mal de temps avec lui avant le film pour s'immerger pleinement dans son rôle. Et voilà, ils sont liés d'amitié. Et voilà, il est mort il y a quelques années. Par ailleurs, il vit au Maroc. C'est tout pour ce dixième thème, Alex. Je pense que j'ai plus rien à te faire piocher. Donc, on va arriver tranquillement, mais sûrement, à la conclusion de cet épisode. Tu sors comment de ce TSP? Qu'est-ce que ça t'a révélé, fait redécouvrir, conforté? L'avant-après, là. Et quelque chose qui est durable, là, qui reste encore aujourd'hui.
Découvrir un nouveau truc que je ne connaissais pas encore dans ma passion, qui est l'ultra. Arriver en disant aux autres, moi, je suis un coureur d'ultra, et même le terminer en leur disant, en commençant à débriefer par, moi, je suis un coureur d'ultra, et ce que j'aime, c'est le 100 miles avec 10 000 mètres de dénivelé, de la concurrence. En leur disant ça, me rendre compte que, maintenant, je suis aussi quelqu'un qui court des 500 bornes dans le désert d'Atacama. Et je pense que je l'ai pas encore avalé, ce truc-là. Je l'ai pas encore, cette étiquette, dans mon classeur de petites étiquettes de ce que je pense de moi. Mais j'ai kiffé ce truc, donc il va falloir que j'en refasse. Parce que j'ai kiffé cette expérience pirate, parce que j'ai kiffé cette expérience de solitude et de tout d'or que je n'ai que très peu, à part quand je fais quelques off. Donc ça m'a renforcé dans l'idée que j'étais en train de me faire depuis quelques années, que sincèrement, partir sur moitié de ce que je fais off et moitié de ce que je fais en course, ça peut être un bon équilibre. Après, ce que ça m'a fait surtout dire, ce mec, Nils, qui crée ce truc-là, en fait, c'est un peu comme les politiques qui ont créé l'UTMB, qui ont créé un espace d'expression pour ultra-trailer, top. Lui, il a créé aussi un truc qui, moi, me plaît parce que c'est un petit côté panache, Cyrano de Bergerac, fabuleux. Et ça me fait dire que, OK, si lui, il envoie 7 personnes plus leur crew qu'il a vu sur Google Meet 2 fois, il a entendu dire que les mecs courent à peu près traverser le désert d'Atacama. Si lui se dit c'est possible et je vais le faire et ça va passer, ben pourquoi pas moi aussi organiser des trucs comme ça, quoi. J'ai envie, je sais pas si j'y arriverai tout de suite, mais j'ai envie de réorganiser des trucs pirates. Il y avait un truc pirate que j'organisais, mais je me faisais plus passer pour officiel que pour pirate. Avant, c'était l'UTMM, l'Ultra Trail Montmartre, et j'ai toujours cette carte. Donc là, je suis en train de le faire renaître dans ma tête, et il va renaître dans les faits aussi en 2024. Je sais pas encore tellement quand, mais il y aura très peu d'informations, ça c'est ce qui est sûr. Il y aura pas de site pour s'inscrire. Il y aura.
Il arrive ou pas? Il a pas confirmé encore.
Peut-être que je pourrais me débrouiller pour demander aux gens à obliger. Moi, c'est sûr qu'il y aura des règles. Par contre, il y aura des règles à l'inverse de liberticide. Je ne sais pas ce que c'est l'inverse de liberticide. Ils pousseront à l'extrême la possibilité d'avoir des libertés. Libertivores. Hyper libertaires. Des règles libertaires, voilà. Libertariennes. Ah, ça, c'est moche. Mais ça m'a donné envie de ça. Ça, c'est sur l'aspect inspirationnel et mentor. Et après, fondamentalement, ce que j'en garde, c'est l'envie d'en refaire. Et fondamentalement, ce que j'en garde, c'est le truc que je trouve dans l'ultra tout le temps, c'est que ça me permet de me rappeler que je suis vivant et que je suis pas enterré et que je suis pas sous terre. Et qu'il y a que en faisant des trucs fous de ce style-là que j'arrive à me sentir 100% vivant. Je sais pas si avant le TSP, je m'étais senti vivant comme ça, mais là, j'ai pris un shot de vie. À voir à quel point j'aurai un very bad trip ou pas avec ce shot de vie. Et je pense que j'ai pas encore basculé. J'aurais pu basculer complètement taré et rester vivre à traverser que le désert et continuer. Pas, non, je reviendrai pas en France avec toi, Charlotte. Je vais continuer à marcher seul dans le désert. Ma vie est ici. Non, mais j'ai 32 ans. Ma crise de la quarantaine risque d'être phénoménale.
Une des dernières questions que j'aimerais te poser, Alex. Est-ce que tu peux encore t'enthousiasmer pour des courses plus conventionnelles? Est-ce que tu peux encore y trouver du plaisir? On sait que tu aimes retourner sur les courses que tu connais, etc. Est-ce que là, maintenant que tu as connu ça, est-ce que tu vas pouvoir y trouver encore des choses?
Je me suis beaucoup posé la question juste en revenant, forcément. Et la question, elle était vite répondue. parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime courir. Et que j'avoue que quand j'ai parlé aux autres concurrents et qu'eux, ils connaissaient pas l'UTMB, ils connaissaient pas la Diagonale des Fous, ils connaissaient pas le système européen de course, alors que c'était certains des Américains, ils ne connaissaient pas la hard rock et la western, ça m'a fait bizarre. Moi, je les connais, j'ai la chance de les connaître, que ce soit Notre-Dame de la Gorge ou que ce soit les 14 premières bornes de la Diagonale. J'ai envie de les revivre, ces trucs-là, parce que c'est des petits shots de vie, mais j'ai envie de les revivre. Et sincèrement, j'aime trop courir pour me dire qu'il faut forcément que ça soit un truc plus fou et que ça soit du toujours plus pour que je continue à aimer ça. Donc non, tu vois, genre là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'il est minuit 47, j'ai 11 bornes pour rentrer chez moi, et là, je vais prendre du plaisir à faire mes petits 11 km en mettant un petit podcast et en courant tranquillement jusqu'à la maison, quoi.
Brièvement, Alex, ce que tu connais 2024 pour l'instant, pour toi?
2024, logiquement, l'épisode va sortir quand j'aurai déjà sorti mon planning. Peut-être que la première course aura déjà été faite. Hong Kong, début janvier. Je te donne que les gros où je suis sûr à 100% parce que c'est de l'envie. Hong Kong, début janvier. L'Ultra Trail du Mont Fuji en avril. Un TSP en Allemagne en juin. Deux off avec Loïc, je pense. Un en février-mars, un en mai. Avec toujours nos idées un petit peu bizarres. Fin août, je crois qu'il y a ce truc traditionnel autour du Mont Blanc. Là,
du côté de Chamonix.
Ouais,
non,
du côté de Chamonix où ouais. Il est possible que je vienne. Sur l'UTMB, je suis déjà qualifié, j'ai déjà mon dossard, donc je suis certain de prendre le départ à moins de voilà, un autre truc qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Diag,
je n'y vais pas cette année. Je retourne en Suède parce qu'ils m'ont eu, ces bâtards. Il y a une bague, on a une chevalière. Donc quand tu termines, tu as une chevalière, la première année elle est argentée, la deuxième année elle est argentée et la troisième année c'est une chevalière dorée. Donc quand tu as fait 3 coups la même année, t'as le droit d'avoir une chevalière dorée.
Quel que soit ton classement.
Donc forcément il faut que j'y retourne juste pour avoir cet artefact du trail. Donc coups la même année. Et Lyon-Saint-Élion, en fait ça m'a un peu gavé cette année d'arriver avec 500 bandes dans les pattes tout blessé. J'avais décidé d'abandonner avant de prendre le départ. Donc ça m'a un peu saoulé, donc l'année prochaine j'aimerais bien y retourner un petit peu plus en forme pour aller accrocher les premières places. Très clairement je vais pas y aller pour sucer des glaçons ou du verglas. Mm-hmm. Donc, a priori, ça va être à peu près ça le programme. Il y aura peut-être 2-3 courses, entre autres. Je pense que je vais peut-être faire un tour en Auvergne du côté de la VVX. Je vais faire les Côte-Rail de Paris, mais ça ne sera pas des objectifs sportifs. Les objectifs sportifs, c'est Hong Kong, Japon, UTMB et Lyon-Saint-Étienne. Le reste, on pense même pas au sport.
Quel film t'as le plus envie de revoir là, après les avoir passé en revue tous les 10, celui qui devient là?
Speed, je pense que pour le truc, c'est pas mal, mais non, le train dans la neige, transpersonnage, je pense que c'est celui-là qui m'a donné le plus envie.
Moi, je vais cocooner, je pense, avec Un jour sans fin, dans les prochains jours. Réveillon 31 décembre, quel est le programme? Cet épisode sortira après. On n'a pas tes résolutions, mais je te parle.
Au début, j'avais hésité à faire l'UTMM le 31 décembre, c'est-à-dire que passer le nouvel an en faisant mes allers-retours dans l'escalier de Montmartre, mais on nous a proposé une soirée. Et il y a quelqu'un qui, sur la trace d'Imakizar en début d'année, m'a offert une bouteille de bière de 11 litres. Donc, ouais, improbable. Ouais, surtout quand tu, vois, quand tu rentres de Bourg-en-Bresse, tu n'avais pas prévu de ramener une bouteille de 11 litres dans le train. Après avoir couru un 100 bornes, c'est très pratique. Mais il y a quelqu'un qui m'a offert ça, donc je, voilà, c'est ça, c'est mon programme du 31, c'est cette bouteille-là. C'est aller au bout de ce truc-là avec quelques amis.
Ouais, il en faut un petit paquet, là.
On se dit, ça va, ça fait 22 pintes. 22 pintes, on se met à quelques-uns, ça va le faire. Le tout, c'est qu'il reste des bulles pour les dernières pintes.
Merci beaucoup, Alex.
Merci à toi. Merci à toi.
TSP, c'était un grand plaisir. Puis c'était chouette de ce petit pas de côté. Là, on a tenté quelque chose.
Mais exactement,
nouvelle expérience. On s'est laissé enthousiasmer par ce projet-là.
Ça se trouve, ça fera un énorme flop. Ça se trouve, ça cartonnera.
On espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas.
Exactement.
En binaural, ou en stéréo, ou en mono, ou en noir et blanc, ou je sais pas quoi. Voilà, nous, on a passé un super moment. En tout cas, moi, oui. On va bien dormir. Toi, t'as encore un peu de course à pied. Moi, je suis pas très loin de ma chambre. Ça va être plus rapide. Et merci pour toi, Alex. C'était toujours un immense plaisir. Tu le sais, j'ai plus besoin de te le dire. Merci d'avoir fait vivre comme ça le TSP dans son intégralité, sous toutes ses coutures et avec plein d'angles très différents d'attaque. C'était super.
Et j'espère qu'on se retrouve très vite sur des projets podcast sans filtrer aucune information. Et bim, je lâche un truc.
Ouais, coming soon. Merci, Alex.
Ciao.
Hop, hop.
T'as tout ?
Mes affaires. Yes, j'ai tout. Attends, je remets les chaussures. La journée n'est pas terminée. Eh, d'ailleurs, c'est celle-ci que j'avais dans le désert d'Atacama.
Ouais.
Tu vois, elles sont commencées à.
Un peu,
ouais. Elles ont eu un peu de vécu, quoi. Et elles sont bien faites au pied, tu vois. Et ce qui était drôle. Ah putain, je pourrais continuer.
on fait une troisième partie.
On fait un deuxième épisode. Alors, c'est troisième partie, les enfants. non, ce qui était drôle, c'est que j'avais prévu d'autres chaussures. Salomon m'avait envoyé un prototype spécial.
Ouais.
Et je pouvais pas les mettre parce que mes pieds avaient tellement gonflé. Qu'en fait ça ne rentrait que à l'intérieur des Ultra Glide, de celles-ci qui sont ultra larges.
Okay.
En fait j'avais des espèces de deux pintes de chocolat.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait je ne pouvais même plus les serrer, je les rentrais et c'était déjà serré comme ça. Je pouvais pas
okay.
Alors que tu vois, normalement.
Et là t'as pris plus grand par rapport à d'habitude ou pas?
Non, non,
que
c'était, sur les autres c'était normal. Mais genre mon pied
ouais.
remplissait entièrement cette chaussure qui normalement peut être serrée sur 10 cm ou 15 cm. Genre mon pied était vraiment comme ça. Bref. Je te laisse dormir tranquillou.
T'es pas beaucoup couvert là. Non, t'avais pas de veste. Non,
elle est là-dedans. J'ai une petite veste, là, tranquille.
Ton tour de cou.
Ouais.
Tu as besoin de charger en flotte
non.
Tu veux la ceinture ou autre? Non,
bon, j'ai déjà assez de vieux, suffit.
Ok. On est jamais trop prudent. Hein. C'est pas le moment de faire une déshydratation.
mais tu sais, là il y a quand même des ravitaux à peu près tous les 500 mètres dans Paris.
T'as dit quoi là, 10 bornes et demi?
10 bornes et demi, je pense qu'il y a 11 bornes, par où je vais passer, je vais repasser par Montmartre.
Ok. Tu fais un bisou à Charlotte?
Ouais.
Bien, merci. Je suis
au courant.
Ouais.
Putain, j'avais dit, ouais, t'inquiète, je pense bien. Minuit, je suis rentré.
Et tu cours avec des écouteurs comme ça?
Ouais. Tout le temps. Je déteste les.
Shocks.
Les trucs intra-auriculaires, je sais pas trop quoi.
Extra-auriculaire.
Ça me stresse, moi, ce que t'as.
Et conduction osseuse, non?
Soto, ils m'en ont envoyé. Je les ai pas encore eu le temps de les tester.
J'aime bien, je pars avec Shox maintenant.
Mais ça, y a pas besoin de batterie. Enfin, pas besoin de batterie. J'ai Siri, je peux
consulter
mes mails,
pas,
etc.
Ouais.
Ça fait 10 ans.
Ça fait le taf. Ça fait la job, comme on dit au Québec.
Ça fait le job. Mesdames et messieurs, bonne soirée.
Merci, Alex. Cool.
Le soirée n'est pas encore terminé, j'ai un billet.
Si tu veux prendre un panier à ce moment-là.
Bon courage pour vous. Merci pour tout.
Ouais, c'est super, merci à toi.
Ciao.
Buenas
noches.
Bonne nuit,
merci encore. Si, gracias. on met le réveil. Gracias, c'est le mot de vocabulaire. On met le réveil à 4h du matin, on est bon.
Ouais, merci Alex.
Ciao.
Ciao, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.